n'est pas à exclure.
Climatique.
Voilà, donc le fait qu'on soit incapable de comprendre la détresse des pays de frontières, qui sont les pays d'accueil. C'est-à-dire qu'eux sont frontières. Quand on ne l'est pas, on n'a pas du tout les mêmes problématiques, ce que je disais en introduction. C'est-à-dire que cette opinion publique n'existe pas parce qu'on ne voit pas les problèmes avec le même prisme. Donc aujourd'hui, il faut d'abord une stratégie avant d'avoir des chefs en Europe. Il faut un plan. Il faut être d'accord, que ce soit une politique des quotas ou que ce soit simplement la façon dont on va traiter cet accueil, plutôt que, comme vous le dites, de faire de l'outsourcing auprès des Turcs en leur payant 6 milliards ou en disant on va faire des camps de l'autre côté de la Méditerranée. C'est pas une façon de gérer les choses. On voit cette limite, encore une fois, l'Europe politique, parce qu'il n'y a jamais eu de stratégie. Les grandes puissances, les autres, que ce soit les États-Unis, la Chine, la Russie, ont des stratégies. Elles sont capables d'aligner un plan à 5 ans en disant c'est comme ça qu'on va faire et on s'y tient. En Europe.
Parce qu'elles ont des intérêts nationaux.
Bien sûr. Ça. Bien
en fait,
sûr.
Il faut définir un intérêt européen.
Aujourd'hui, il n'y en a pas. Très compliqué parce que chacun voit midi à sa porte et c'est bien le problème. Et derrière, mais même sur la question de l'armée européenne, c'est l'intérêt quoi? D'abord des fabricants d'armes qui sont français, allemands, anglais, ils s'en vont. C'est compliqué de dire, alors qui va armer comment? Aujourd'hui, vous avez des Belges qui achètent des avions américains pour faire plaisir aux États-Unis. C'est compliqué si aucun des pays membres joue le jeu et si, en plus, on ne peut pas se mettre d'accord. Et là, aujourd'hui, pourquoi les nationalistes ont succès? Parce qu'ils disent, écoutez, moi, je prends le problème à bras-le-corps. Si l'Europe ne veut pas le faire, alors on va le faire comme ça. Et puis, on mettra Bruxelles devant le fait accompli. Et
Yves Bertoncini, on l'a vu, ça, la semaine dernière, au G20 d'Osaka, l'Europe était inexistante. Elle apparaissait pas dans la photo. Sur la photo, on voyait Trump, on voyait Xi Jinping, mais les dirigeants européens, ils étaient à l'arrière-plan dans le décor, noyés dans le décor.
Non, mais c'est l'un des effets de la crise économique récente. Avant, il y avait le G8, à l'intérieur du G8, il y avait 4 pays européens. Le G20, on est en minorité. Et en plus, on est...
Et en bout de table maintenant.
Oui, mais de toute façon, si vous voulez me refaire dire que c'est plus facile de gouverner la Chine ou la Russie que l'Union européenne, c'est sûr, c'est un combat. Il faut unir 28 démocraties nationales. C'est notre chance de vivre dans ces démocraties. Simplement, ce sont des démocraties qui sont divisées, par exemple sur la crise des réfugiés, parce que certains peuples voyaient les réfugiés comme des victimes à aider. C'était le cas des Allemands. Et puis d'autres les voyaient comme des menaces, voilà, et notamment en Europe centrale et orientale. S'agissant de l'Europe, bien sûr que ça a mis du temps, mais il y a quand même un intérêt commun d'abord à essayer de stabiliser les pays sources, hein, stabiliser les conflits, aider au développement, effectivement renforcer le contrôle des frontières, parce qu'il y avait quand même un vrai déficit de confiance hein, vis-à-vis de pays comme l'Italie ou la Grèce, qui laissaient passer, parce que c'est vrai que les réfugiés ne voulaient pas venir chez eux, mais plutôt ailleurs, y compris en Allemagne et au nord de l'Europe. Mais maintenant, on arrive au déficit de solidarité. Les Italiens ont raison de dire que la France n'a pas été assez solidaire. La France devait reprendre 10 000 demandeurs d'asile arrivés en Italie. Récemment, on en était à 700 sur les 10 000. Donc la France n'a pas fait sa part. Elle fait là maintenant par petits bouts. Et c'est vrai qu'il faut arriver à régler l'ensemble. Le déficit de confiance est en train d'être réduit. Il faut réduire le déficit de solidarité, mais surtout agir à la source dans les pays où se déclenchent des crises de l'asile. La crise des réfugiés, elle est quand même derrière nous, mais la pression migratoire, elle reste devant nous.
Définir un intérêt commun et puis donc accoucher d'une incarnation. On se souvient, Marion Gaillard, de la fameuse phrase de Kissinger, c'est dans les années 70, l'ancien secrétaire d'État américain, l'Europe qui a le numéro de téléphone. Vous avez le numéro de téléphone de l'Europe là sur
non, vous toujours non, pas, je crois que personne ne l'a. Non. Mais je suis un petit peu plus sceptique par rapport à ce qui vient d'être dit, parce que je trouve qu'il y a une forme de cohérence et de politique migratoire de l'Union européenne qui est le refus de l'ouverture. C'est-à-dire qu'on a une... dans la rhétorique, une opposition, mais en final, comme tu l'as dit, finalement... La France, finalement, n'a pas accueilli. Aujourd'hui, l'Allemagne se referme sous la pression de la CSU et on est tous d'accord pour faire une externalisation de la politique migratoire vers la Turquie. On l'envisage même parfois vers la Libye, ce qui est un scandale absolu. Donc, il y a quand même, finalement, au-delà des discours, il y a quand même un accord global pour ne pas ouvrir. Et finalement, effectivement, Macron, il peut critiquer Salvini, mais on avait aussi refusé d'ouvrir nos ports et ils ont été obligés d'aller à Valence l'année dernière. Donc finalement, tout ça, c'est beaucoup de la rhétorique qui sert les uns et les autres, c'est-à-dire les populistes et les libéraux, soi-disant, mais qui finalement ne fait pas progresser l'Europe.
Marion Gaillard, point de vue de l'historienne, est-ce que l'Union européenne, telle que l'on a connue, appartient déjà au passé? Est-ce qu'on est en train d'observer la lumière d'une étoile en train de mourir?
Écoutez, j'ai envie de vous dire oui et en même temps j'espère pouvoir vous dire non. Mais j'avoue que je suis pas très très optimiste parce que je vois pas tellement là, en l'état actuel des forces politiques avec les régimes illibéraux. Tu disais tout à l'heure on vit dans 28 démocraties. Ça se discute maintenant pour certains pays quand même avec une remise en cause d'un certain nombre de libertés publiques et de valeurs fondamentales de la démocratie telles que la séparation des pouvoirs par exemple. Et donc il y a un modèle qui est en train de s'essouffler. Ça me semble clair et je vois pas tellement comment on peut arriver à construire encore l'Europe avec des pays qui jouent pas le jeu. Et ils veulent l'Europe, effectivement, mais pas la même.